entreprise familiale qui a été fondée par Chuck Wang, qui a commencé sa carrière en rachetant des entreprises à l'euro symbolique pour les revendre ensuite, qui petit à petit s'est créé une fortune et qui ensuite s'est rabattu sur l'investissement immobilier en gestion location.
Alors, juste pour rajouter, en fait, ils n'ont jamais communiqué. Et en fait, parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de communiquer, puisqu'en gros, ils rachètent, tu disais, pour
c'est
un euro symbolique.
Et ils ont même été des inconnus dans le milieu, jusqu'à une OPA pour racheter un tiers de la société de la Tour Eiffel, qui les a un peu révélés au grand jour. Donc c'est la première fois où ils ont été un peu confrontés à l'image qu'ils renvoient, on va dire. C'est à ce moment-là qu'ils ont approché Grafein.
Et de façon assez frileuse au début, parce que lui, il voulait un logo, il parlait de charte graphique, mais nous, de suite, on a parlé de support de communication, de site internet, parce qu'ils n'en avaient pas, et dans un premier temps, il n'en parlait pas, il n'en avait pas besoin, il venait juste de dire, j'ai pas d'identité, il me faut un beau logo sur ma plaque d'entrée de bâtiment, de bureau.
Oui, et même avant ça, il y avait en amont l'idée de savoir qu'est-ce qu'il voulait communiquer. Parce qu'une entreprise qui n'a jamais eu besoin de communiquer, à un moment, il a fallu se dire, c'est quoi le storytelling de cette marque ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de véhiculer ?
Et d'autant plus qu'ils étaient absolument inexistants, même sur Internet, en fait. Ce qui est assez rare aujourd'hui, en fait.
Et ils étaient tellement discrets sur Internet que lorsqu'on a fait la présentation de nos pistes et qu'on leur a expliqué les éléments auxquels on s'était attaché, il y a des choses qui les ont surpris.
Oui, je pense qu'ils avaient totalement une méconnaissance de notre... dans notre processus de création, de tout le travail de recherche qu'on allait faire un peu sur leur personnalité, sur leur parcours, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui est vraiment incarnée par le fondateur et aujourd'hui, effectivement, par le fils.
C'est
donc,
ça.
Il a fallu aussi qu'on sache un peu se positionner entre l'image du père et l'image du fils, parce que symboliquement, il y avait cet héritage qui se
c'est
faisait
ça.
Entre les deux. Et c'est vrai que, comme le disait Leslie, quand on a fait le premier rendez-vous de présentation des pistes créatives, ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Et en même temps, ils étaient un petit peu surpris parce qu'il y avait effectivement cette ignorance complète de bon, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Ils se sont en fait vraiment pris au jeu de ce qu'il pouvait y avoir derrière une identité visuelle. Voilà, que ce soit les recherches sur la typographie. Et puis, on parlait tout à l'heure de storytelling. C'est vrai que très vite, on s'est dit peut-être qu'il leur faut un emblème qui puisse raconter quelque chose. Parce qu'on avait aussi toute une réflexion sur... la connotation que pouvait avoir le mot Eurobuy,
c'est ça.
Qui pouvait être un petit peu, comment dire, on disait que c'était un peu discount, que ça faisait pas très...
Un peu rétro, quoi.
Un peu rétro, pas qualitatif. Ouais. En tout cas, ça connotait pas cette dimension d'excellence qu'il y avait à travers l'histoire de la famille.
Et d'élégance aussi, il y a une vraie demande de leur part d'avoir une image qui soit, on parle souvent discret mais flamboyant pour les déterminer, mais en fait on s'est vraiment attaché ça, il fallait que ce soit discret mais flamboyant.
Alors oui, mais c'est ça qui est intéressant de mentionner, c'est-à-dire que quand on a fait des recherches sur on a vu que Monsieur Wang était un très grand joueur de poker.
International.
Voilà, et ce qui lui a valu ce surnom à la fois de discret et flamboyant. Et c'est vraiment des éléments dont on s'est emparé pour essayer de créer l'ADN de cette marque qui n'en avait en fait pas du tout.
C'est ça. Du coup, ce qui a été intéressant justement, c'est de transposer tout ça sur un travail d'emblème.
C'est-à-dire que ce qu'on voulait tenter de faire, c'était symboliser ce monde des affaires qui peut être effectivement assez conquérant, de faire effectivement une OPA, un achat, de surenchérir et de passer devant un acquéreur. Donc c'est un milieu qui est très compétitif. Et à un moment, voilà, on s'est dit, on a quand même une famille avec un joueur de poker, on a quand même une famille qui a fait Polytechnique, et on a voulu faire transparaître cette histoire dans un emblème, dans un symbole. Et il y a un moment, on a commencé à faire des recherches effectivement sur la symbolique animalière.
Parce qu'il y avait le côté héritage, familial, blason, qui pouvait aussi s'y raccrocher en reprenant un animal.
Du coup, l'emblème, en fait, on s'est vite tourné vers la représentation d'un oiseau en envol qui représentait à la fois la vision, l'idée aussi de hauteur, d'investissement, donc de voir loin. Un oiseau qui après s'est concrétisé de façon assez géométrique pour justement faire référence à ce milieu de l'immobilier.
Parce qu'en fait, c'est à la fois un oiseau et c'est à la fois un monogramme qui reprend un E et un B,
c'est
Eurobuy, plus ou moins subliminal d'ailleurs.
Il y a quelque chose des papiers découpés de Matisse dans ses formes, je trouve, de très art déco et une élégance parisienne.
C'est vrai que si on avait un axe sur lequel on pouvait se baser, c'est que Nicolas Wang, lui, nous disait qu'en fait, ce qui l'attirait, c'était l'univers un peu art déco. C'est quelque chose qui lui plaisait. Mmh. Ça a été un peu...
C'est un des éléments de brief qu'on a eu très tôt dans la discussion.
Toute première piste.
Oui, c'est une intuition qu'il avait, et effectivement, finalement, on a réussi à la conserver dans cette proposition. Parce que bon, il y a eu aussi plusieurs propositions de logos, et toutes n'étaient pas sur un aspect art déco. Mais finalement, en toute logique, c'est cette piste qui a été choisie.
Après, il y a eu la question de la signature aussi, qui a été intéressante, parce que on avait proposé plusieurs choses. On avait proposé de travailler sur maison d'investissement, et finalement ils ont opté de repartir sur quelque chose de très patrimonial, et sur en fait le seul élément un peu héritier storytelling qu'ils avaient aussi, c'était le fait d'exister depuis 1972, même s'ils n'avaient pas communiqué. Et donc du coup on a réappuyé là-dessus plus que sur leur activité, et c'est là que ça a fait ressortir un peu le côté luxueux qu'on peut avoir avec des marques qui communiquent en disant maison de couture depuis...
Je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui peut être importante et qui a motivé ce choix de la part de Nicolas Wang, c'est le fait que cette signature, en fait, finalement, elle dit juste une date, mais elle ne dit pas un domaine d'activité, et que finalement, ça lui permet aussi de faire évoluer l'entreprise, peut-être d'une façon différente que celle que son père avait initiée au tout début. Donc, je pense que lui, il a été assez conquis, et il s'est très facilement réapproprié cette proposition, tout simplement parce qu'elle est assez ouverte.
Il s'est projeté, oui.
Ouais, c'est l'idée d'oiseau, non, pas la vision.
Discussion oiseau qu'on a eu la dernière fois avec le logo d'Auchan.
C'est vrai que vous êtes plus calé en oiseau.
Il y a team moineau, team rouge-gorge.
Ils sont tous sceptiques, c'est des moineaux.
Non, mais au final, par rapport à l'oiseau, on s'est posé plein de questions, parce qu'à un moment donné, lui, il nous a parlé d'un hibou, on lui a dit que c'était pas forcément une bonne idée, on a parlé d'oiseaux qui étaient plus des rapaces, et on s'est dit ça va peut-être être trop agressif par rapport à l'image qu'il voulait donner aussi. Donc en fait, c'est un oiseau par rapport à tout l'imaginaire, tout l'esthétique que ça apporte, l'envol, le côté élégant... Mais en même temps, il n'est pas typé ni petit rouge-gorge mignon, ni gros aigle un peu agressif.
Mais je pense qu'après, ce qu'il y avait depuis le début dans la symbolique de l'oiseau, c'est, on l'a dit au début, c'est cette idée de vision. Et l'idée aussi que, de la même façon que le symbole surplombe la typographie, il y a cette idée qu'il peut fondre sur sa proie à n'importe quel moment. C'était un peu l'idée...
C'est l'ambiguïté.
Voilà. De se dire, bah, c'est des investisseurs, ils font de la veille sur des opérations, et donc dès qu'ils voient une opportunité d'investissement, il faut que ce soit les premiers à dégainer.
Et un truc qui les avait assez séduits aussi, c'était que dans la construction de cet emblème, on retrouvait aussi une flèche, déjà, qui pourrait symboliser un peu l'idée de croissance et de mouvement, et que, en fait, toute la dynamique de l'emblème poussait un peu le logo vers la droite, vers l'avenir. Une autre chose qui a été intéressante avec ce projet, c'est qu'on a eu aussi l'occasion de travailler avec l'imprimerie du Marais, donc d'être un peu...
C'est-à-dire qu'on a travaillé pour Robaille, il y avait déjà depuis vraiment plusieurs années où on se disait, est-ce qu'un jour on va travailler avec l'imprimerie du Marais ? Parce qu'en termes de fabrication, on se disait, c'est quand même du haut de gamme. Et c'est très rare d'avoir des clients qui aient un budget d'impression et de fabrication qui puisse permettre d'aller contacter des imprimeurs vraiment qui fassent du très très haut de gamme, avec des très beaux papiers, des principes de marquage qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et quand on a commencé à travailler sur l'identité visuelle de Robaille, très vite on s'est dit, ah là il y a peut-être l'opportunité de contacter l'imprimerie du Marais, parce qu'on commençait vraiment à avoir la confiance de Nicolas Wang, et que je pense que très vite il s'est dit effectivement que l'impression, ça pouvait être une valeur ajoutée très forte pour prolonger la symbolique et l'image de sa nouvelle marque. Et coup de bol, il a accepté.
Euh, Étant donné que tout ce qui était gamme de couleurs avait déjà été défini, il a fallu trouver les bonnes références de papier avec le bon grammage, la bonne texture. Pareil, faire des sélections de pelliculage.
De marquage or.
Donc lui, c'est quelque chose qui l'intéressait assez, l'idée du marquage or, mais en même temps, on n'avait pas envie de tomber dans le cliché du clinquant, de l'or brillant. Donc, par exemple, une des solutions, ça avait été de trouver un pelliculage en or mat qui, justement, cassait un peu ce côté un peu kitsch que peut avoir le pelliculage des fois. Pour ce qui est de la gamme de couleurs, on était toujours dans cette idée d'héritage de quelque chose d'un peu sophistiqué aussi. Donc, ça s'est fait déjà par le vert profond. Qui en fait symbolise, c'était un peu l'idée d'avenir, d'espoir, mais en même temps quelque chose d'assez établi, de billets aussi.
Des tapis de poker.
Aussi, notamment. Et cette idée de crème. Donc pour le crème, en fait, c'était vraiment d'une part à l'écran pour casser le blanc, en fait, qui peut être assez violent, être dans quelque chose d'un peu plus subtil. Et l'idée aussi, c'était que... physiquement, en fait, ce crème, ce soit plutôt par la sélection papier qu'on l'amène, en fait.
Et au final, on s'est retrouvé avec deux versions à chaque fois pour la papeterie, parce qu'il y avait une version qui était à destination un peu de l'usage du quotidien, qui misait surtout sur le crème et une impression en verre.
C'est ça.
Et par rapport au mock-up qu'on avait proposé dès le départ, que tu avais fait, qui était très sophistiqué avec ses marquages, au final on s'est retrouvé à faire des tirages pour les cartes de visite par exemple des dirigeants qui étaient avec un papier vert jade, puisqu'on l'appelait comme ça dans la charte, et ce marquage or qui est mat finalement par rapport
c'est à... C'est ça.
Et quand vous retournez le symbole, ça devient une couronne?
Alors c'est marrant que tu parles de la couronne, parce qu'il y a aussi quelque chose dont on s'est rendu compte après coup, c'est que finalement le code couleur il est très proche du logo Rolex. Et l'emblème de Rolex, c'est une couronne. Donc, je pense qu'effectivement, dans l'aspect graphique général, peut-être de façon subliminale, il y a ce côté un petit peu royal, ce côté très, bon, voilà, qui communique un peu le monde de l'argent. Et finalement, c'est plutôt suggéré qu'autre chose. Donc, oui, peut-être que de façon subliminale, il y a un côté un peu couronne dans le côté un peu dentelé de l'oiseau.
Et voilà, c'est chouette.
C'est tout.
Jingle.